Bonsoir Hervé.
Bonsoir, des raquettes de velours Hervé, hein, chez nous.
1, 2, 3.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Je suis Xavier d'Horizon.
Et je suis Arnaud Meunier.
Ping pong, la culture sans limite. Oh, yeah.
Ce soir, dans Ping Pong, une saga financière shakespearienne et une trilogie d'anticipation économique.
Avec le metteur en scène et directeur de la Comédie de Saint-Étienne, Arnaud Meunier, qui reprend Chapitre de la chute, saga des Lehman Brothers, la pièce de Stefano Massini consacrée à la montée au zénith et au vertigineux crépuscule de la banque américaine au Théâtre du Rond-Point à Paris en ce moment et jusqu'au 29 mai.
Et avec Xavier d'Horizon, scénariste de la série BD HSE Human Stock Exchange, il nous emmène dans un futur pas si lointain où, suite à une énième crise financière, c'est désormais l'être humain qui est coté en bourse. Mais lorsqu'on est devenu une action comme les autres, peut-on s'affranchir de son conseil d'administration? Éléments de réponse dans le tome 3 qui vient de sortir chez Dargaud. Mais tout de suite, l'essentiel de l'actualité avec vous, Stanislas Vazak, bonsoir.
Bonsoir, mobilisation en hausse contre la loi travail aujourd'hui à l'occasion de la 6e journée nationale d'action. 86 000 manifestants dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur contre 55 000 la semaine dernière pour la 5e journée d'action. À Paris, la police a compté 12 000 manifestants, la CGT en a recensé 55 000. Une fois de plus, il y a eu des incidents, fin de cortège. À Paris, 12 personnes ont été interpellées après des affrontements avec les forces de l'ordre. Incidents également à Rennes et Nantes où la police a dû intervenir pour empêcher certains manifestants de perturber le trafic routier ou la circulation des tramways. Au total, il y a eu 87 interpellations dans tout le pays. Ce matin sur Europe 1, François Hollande avait une nouvelle fois affiché sa détermination. « Je ne céderai pas sur la loi travail », a dit le chef de l'État qui juge le texte indispensable pour lutter contre le chômage. François Hollande qui estime qu'il n'y a pas d'alternative à gauche à sa politique. Le président veut conduire les Français vers une forme de social-démocratie à la française. François Hollande qui a répété ce matin qu'il attendrait le mois de décembre pour dire s'il est ou non candidat à sa succession. Les policiers sont appelés à manifester demain à Paris à l'appel de l'ensemble de leurs syndicats. Un seul mot d'ordre, dénoncer ce que les organisateurs appellent la haine anti-flic chez certains manifestants qui n'hésitent pas à crier « Tout le monde déteste la police ». Depuis le début des manifestations contre la loi travail, 300 policiers et gendarmes ont été blessés. Les syndicats réclament aussi des directives claires pour lutter contre les casseurs des fins de cortège. Ils ont obtenu que la manifestation de demain se tienne place de la République à Paris, la même où le mouvement Nuit Debout s'est installé à la fin mars. Nous reviendrons à 22h sur le malaise policier avec notre invité, le chercheur Mathieu Zagrodzki. Un nouveau chancelier à la tête de l'Autriche, le social-démocrate Christian Kern, a succédé aujourd'hui à Werner Faymann, qui a démissionné après la déroute du parti social-démocrate autrichien à l'élection présidentielle. Le candidat du SPE a été éliminé et le deuxième tour dimanche prochain opposera le populiste d'extrême droite Norbert Hofer à l'écologiste Alexander Van der Bellen. La météo demain, un temps mitigé avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse par l'ouest, à l'est et dans le sud, le soleil résistera en journée avant une dégradation en soirée. Les températures maximales, 12 à 18 degrés sur la moitié nord, 18 à 23 au sud de la Loire. 19h, presque 4 minutes sur France Culture. Zoé Sfès, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Quel est donc le menu de votre journal de la culture à 19h30?
Et bien, dans le dossier du jour, on parlera de Canal+, puisque Vincent Bolloré s'est enfin exprimé dans les médias, aujourd'hui notamment dans le journal Les Échos, où il a donné une interview. Il a, semble-t-il, précisé sa stratégie, même si, pour certains, elle n'est pas plus compréhensible qu'avant.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen. Ping pong.
Lui est un metteur en scène du vivant. Et pour parler la langue d'aujourd'hui, celle des valeurs boursières et des notes de confiance, je dirais que c'est une valeur théâtrale à fort potentiel en pleine hausse de rentabilité. À 13 ans, il grenouillait déjà au conservatoire. À 20 ans, il avait fini Sciences Po. À 25 ans, Stanislas Nordel remarque au Off d'Avignon. Il fera partie de cette école de théâtre improvisée et partage avec lui l'appétit pour les textes qui nous disent le monde contemporain frontalement. C'est pas par hasard qu'il montra le 11 septembre 2001 de Michel Vinavert.
Lui était bien parti pour tirer profit du système qui nous gouverne. École de commerce, puis carrière prometteuse dans la finance, chez Nestlé et à la banque Barclays, jusqu'à ce qu'il dérape et prenne le maquis aux côtés de dangereux rêveurs, ceux du monde de la bande dessinée. Ce petit soldat du grand capital, devenu incontrôlable activiste du scénario, c'est Xavier Dorizon, non content d'avoir écrit le Troisième Testament, les aventures de Long John Silver ou encore des épisodes de la saga Thorgal, eh bien il s'est bel et bien retourné contre le Léviathan capitaliste en signant avec Thomas Allard au dessin HSE, Human Stock Exchange, le destin et les tentations de Félix Fox, vendeur de voitures qui, en pleine crise mondiale, que dis-je, en pleine apocalypse financière et sociale, eh bien décide de faire coter sa propre peau en bourse. HSE, une série d'anticipations dont le troisième et dernier tome vient de paraître chez Dargaud.
Arnaud Meunier, lui, reprend les chapitres de la chute du dramaturge italien Stefano Massini, saga du capitalisme, récit d'une dynastie qui dérive avec les marchés. C'est au Théâtre du Rond-Point en ce moment à Paris et jusqu'au 29 mai.
Les marchés financiers au bord de la crise de nerfs. Et l'inquiétude est palpable dans les milieux financiers après les nouvelles venues des États-Unis cette nuit. L'annonce de la faillite de la banque Lehman Brothers.
This is absolutely stunning. Wall Street has seen very, very few days like this. The mortgage crisis has now taken down two of the biggest names, the most storied names on Wall Street. One of them, Lehman Brothers, right behind me.
L'économie américaine a la capacité de faire face à long terme.
Eh bien, c'est une drôle d'ambiance qui règne devant le siège de cette banque. On voit entrer et sortir des hommes en cravate et bras de chemise qui, devant la forêt de micros et des caméras qui les attendent, font plutôt bonne figure.
You know there's trouble when employees one by one trickle out with their belongings.
Le risque ultime, Alain, c'est évidemment la faillite, mais les banques françaises semblent à l'abri, au moins si l'on en croit le communiqué publié par Bercy il y a une heure.
Elle a disparu comme ça, le 15 septembre 2008. Dans la journée, on pouvait même racheter très cher des mugs Lehman Brothers sur eBay. Lehman Brothers, ça avait commencé un jour qu'un immigré allemand, juif, arrive sur le port de New York, dans l'Alabama, mais rêve d'aller à New York. On est en 1844 et c'est comme ça que se termine cette grande dynastie familiale. Arnaud Meunier, c'est donc les chapitres de la chute de Stefano Massini qui a décidé de nous raconter, à partir de ce point d'actualité qu'on a tous vécu, ce qu'il y avait derrière. En quoi ce texte, c'est l'histoire de la dématérialisation du capitalisme.
Ce qui est très intéressant dans la pièce de Stefano Massini, c'est qu'il part du principe que 2008, on nous l'a presque tous raconté puisqu'on l'a vécu. Donc, on parlait avec mon camarade tout à l'heure avant de commencer l'émission de Margin Call.
Xavier Dorizon, oui.
Donc, Margin Call, c'est la crise, c'est la chute. C'est un film, oui, voilà, qui est sorti il y a quelques années. Et en fait, le projet Stefano Massini, c'est de raconter l'histoire qui se passe auparavant, c'est-à-dire l'histoire de la famille Lehman Brothers, qui est une histoire simple d'émigrés juifs allemands qui déboulent de leur Bavière natale au fin fond de l'Alabama pour ouvrir une boutique de tissus, ils sont juifs, et puis qui, comment, par la suite de hasard de la vie et de force du destin, vont finir par fonder un empire, une banque, et comment effectivement cette banque va se transformer. Et effectivement, à travers les différentes générations de Lehman, puisqu'on va suivre les trois premiers frères fondateurs, puis ensuite les deux fils, et le petit-fils. On va aussi assister à la transformation de l'économie mondiale à partir d'une économie très matérielle au départ. Ils vendent des tissus, puis ensuite ils vont vendre du coton, puis du charbon. Progressivement, ça va commencer à s'éloigner. Ils vont vendre des projets. Donc, ça va être l'investissement dans le chemin de fer. Donc, sur des choses qu'on ne voit pas tout de suite. On met de l'argent, mais on meurt avant de voir la réalisation de ce pour quoi on a payé. Et puis, jusqu'à la dématérialisation progressive de l'économie avec l'arrivée de la bourse, la création de Wall Street et petit à petit la financiarisation de la bourse avec l'arrivée des traders dont nous connaissons maintenant tristement le rôle dans la crise de 2008 qui nous a tous secoués, dans laquelle on patauge encore allègrement.
plus on avance dans le texte, plus on se rend compte que ce sont les mots qui remplacent les valeurs réelles. C'est ça qui est étonnant, il y a une sorte de double fond, c'est-à-dire que c'est toute l'histoire d'un texte qui nous raconte comment les mots se sont emparés en fait des valeurs économiques et les ont remplacées.
Oui, bah ça c'est ça qui est assez passionnant parce que c'est à la fois 200 ans d'histoire économique américaine et c'est aussi toute l'histoire du capitalisme. C'est-à-dire comment est-ce que, effectivement, au départ, bah, vous avez des marchandises concrètes, réelles, vous les vendez, vous gagnez de l'argent avec ça et ensuite vous essayez d'agrandir votre capital en vendant de plus en plus de choses et en diversifiant les choses que vous vendez. Puis ensuite, comment effectivement tout ça va se transformer. Puis Massigny a l'art d'imager tout ça, puisque les trois frères, il leur donne trois surnoms, les trois frères et trois premiers émigrés juifs allemands. Il y en a un qui est une tête, il y en a un qui est un bras, donc celui qui pense, celui qui agit. Puis il y en a un autre qui est une patate, c'est-à-dire le frère qui, lui, va rendre tout ça possible, parce que il est le sort de diplomate qui arrive à rendre tout ça lisse et à trouver le chemin. Et le fils du bras, lui, va être celui qui, au lieu d'agir concrètement par le bras, va utiliser les mots, effectivement, c'est-à-dire embobiner absolument tout le monde en arrivant à arracher les marchés et jusqu'à planifier sa propre vie en lettres capitales dans son agenda.
Vous, Xavier Dorizon, parlons de votre personnage de fiction qui est au cœur de cette série, donc HSE. Demain, l'être humain sera coté en bourse, dont le troisième tome donc vient de paraître. C'est Félix Fox. C'est pas vraiment une patate, c'est peut-être plutôt un bouc, eu égard à l'attribut qu'il porte sur le menton au début de la série, et puis à son tempérament. Il est fringant, il est fougueux, il est fonceur. Et puis, par envie ou par nécessité, il contracte un pacte faustien, il fait le choix presque de l'inhumanité en décidant de rejoindre HSE et donc de coter sa propre existence, jusqu'à menacer au début de ce troisième tome de devenir tout à fait un monstre. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce personnage et nous dire que vous qui avez écrit au miroir de ce Félix Fox, quel choix vous auriez fait à sa place ?
Ah mais exactement les mêmes. En fait, Félix Fox, il vit dans une histoire de demain, mais en réalité, c'est Félix Fox et nous tous aujourd'hui. C'est-à-dire que on essaye de mener nos vies avec les talents que chacun on peut avoir. Et puis, on vit dans un monde où on nous dit, si tu veux être, il faut avoir. Donc, il faut avoir une grosse voiture, il faut avoir une grosse maison, il faut avoir des beaux vêtements, voilà.
Habiter en zone 1 et rouler
oui,
en
Oui, alors bien sûr, mais oui, dans ce monde, on lui dit qu'il faut habiter en zone 1, zone 2. Mais aujourd'hui, il vaut mieux habiter rue du Bac qu'à Sarcelles. Enfin, voilà, on est un certain nombre à le savoir. Et lui, il est comme tout le monde. Et il comprend que s'il veut continuer, en fait, à exister aux yeux de sa femme, il faudrait qu'il fasse un grand bond social. Et il a pas les diplômes, il a pas les cartes, il est pas né avec les bonnes cartes. Mais il a un talent, c'est qu'il vendrait de la glace à des Esquimaux. C'est vraiment un excellent commercial et suite à une série de circonstances, le patron du Human Stock Exchange va se rendre compte que cette fois-ci, ce serait peut-être intéressant non pas de miser sur ces prix Nobel, ces sportifs, ces cadres de haut niveau, mais de miser sur ce type normal mais brillant, tout simplement parce qu'il a une grande marge de progression. Et lui, il est comme nous. Quand on vous propose, vous dites, écoutez, c'est simple, vous venez vous coter en bourse, on va vous donner un gros chèque. Ce sera votre capital. Et puis, bah, après, c'est normal, comme on aura investi en vous, on va vous surveiller un peu, on regardera votre santé, on regardera ce que vous faites dans votre vie, on vous aidera pour vos choix, puisque naturellement, vos intérêts sont les nôtres aussi. Bref, au début, il a confiance. Et honnêtement, on a envie de faire comme lui. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. On prend un contrat de travail, mais on accepte de bosser un peu plus, on accepte de renoncer à sa vie de famille. On prend un contrat pour payer sa maison, mais on accepte de passer des examens médicaux. On accepte d'être en bonne forme et donc de surveiller avec son
Ça
montre intelligente. En fait, on est beaucoup plus loin qu'Orwell. C'est-à-dire qu'Orwell nous disait, attention, vous allez être surveillé. Nous, on en est carrément à vouloir être surveillé.
Big Brother, c'est vous.
Mais Big Brother, c'est nous. Big Brother, on est maintenant, on veut être Big Brotherisé, en fait. Et donc, lui, il rentre là-dedans et c'est très sympa, jusqu'au moment où le conseil d'administration commence à vous demander de faire des choses qui ne vous plaisent pas. Comme tout salarié, toute personne qui travaille aujourd'hui, peut-être comme ceux qui manifestent, ils ont peut-être un jour entendu leur patron, leur banquier, leur compagnie d'assurance, que sais-je, la liste va être longue, leur dire si vous voulez continuer à jouer le jeu, il va falloir faire... voilà, votre femme, elle est sympa, mais si vous en aviez une autre, ce serait quand même pas plus mal, parce que vous seriez plus valorisé, avec vos kilos en trop, etc., etc.
Ce qui est intéressant, Xavier Dorizon, c'est que votre histoire, elle prend la suite de celle de Stefano Massini, qui est mise en scène par Arnaud Meunier d'une certaine manière, même si là on a affaire à la réalité avec la grande saga Lehman Brothers, vous, vous prenez presque la suite par la fiction, parce que finalement on reprend le tome 1 de Human Stock Exchange, ça démarre quand même sur une énième crise financière, hein, je rappelle qu'entre 2008 et maintenant il y en a eu aussi d'autres, des ombres de crise financière, qu'entre temps il y a le high frequency trading qui est arrivé, donc ce sont des échanges encore plus rapides et encore plus dématérialisés, vous vous reprenez un petit peu l'histoire là, et vous, à partir de là arrive cette valeur refuge qui est la valeur humaine, donc finalement vous continuez dans la fiction le constat de Massini Meunier.
Oui, alors en apparence. En apparence parce que, oui, je parle d'une énième bulle spéculative. Et après, vous savez, au 19e siècle, avoir misé sur les tulipes, qui ont fait une première bulle spéculative à cette époque-là. Après, il y a eu des bulles spéculatives financières autour d'Internet. Aujourd'hui, il y en a de l'immobilier en Chine. Et puis, on trouvera d'autres supports, ou d'autres sous-jacents, comme disent les financiers. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, je m'inscris dans une chronologie. Mais la différence, à mon avis, entre nos deux sujets, c'est que quelque part, l'histoire des grandes banques raconte comment l'enfant finance a mangé son père économie. C'est-à-dire que l'économie avait besoin de la finance pour vivre. Et quelque part, au bout d'un moment, la finance étant devenue tout simplement plus rentable que l'économie réelle, elle a commencé à manger son créateur. Et moi, je raconte une histoire qui est liée à ça, mais différente. Moi, je raconte comment l'économie matérielle qui était censée aider l'homme à mieux vivre, à être plus heureux, à être plus serein, à mieux passer ces quelques années qu'il a sur Terre, se sont tout d'un coup retournées contre lui et font que maintenant ce n'est plus l'économie qui sert l'homme, mais l'homme qui sert l'économie. Et donc dans les deux cas, ce sont des enfants qui ont mangé leurs parents.
Arnaud Meunier.
Mais effectivement, là, ça se rejoint. C'est dans l'histoire de la saga, c'est Philippe Lehmann qui dit, qui propose à son cousin Herbert de considérer la banque comme une personne, en disant les jambes seront la banque, mais les bras seront la bourse. Et la question de l'arrivée de la finance, parce que tout d'un coup, elle est le moyen de faire de l'argent vite, beaucoup plus rapidement, avec cette scène qui est très savoureuse qu'a inventé Massini quand le trader arrive. Il dit, mais moi, je n'ai rien à foutre de vos très beaux bureaux, de vos lourd de votre or, nous on n'est pas là pour les bonnes manières, nous on est des mécaniciens, et qui invente donc un deuxième siège pour la Lehman Brothers dans un autre endroit où c'est une sorte de hangar désaffecté.
Là on est dans le dernier chapitre.
Voilà, où c'est que des gamins qui sont là face à des ordinateurs et qui à l'époque, c'est encore très manuel à l'époque, hein, ils ont un téléphone dans chaque oreille et puis...
C'est le loup de Wall Street.
Et voilà, ils ne jouent qu'avec 8 bourses à l'époque. Or ça, effectivement, moi je me souviens que j'ai un camarade de lycée, un jour, mon premier voyage à New York, je vais le voir, il me dit qu'il travaille pour Goldman Sachs et je me demandais bien ce qu'il pouvait faire chez Goldman Sachs, et il me dit, je crois que je suis incapable de t'expliquer mon travail. Et c'était un garçon brillant en mathématiques, donc il avait fait voilà, maths sup, maths spé, puis ensuite X, pont, je sais pas quoi, et puis effectivement en fait il faisait des logarithmes à longueur de journée, et c'est vraiment avec la crise de 2008 que j'ai compris en fait ce qu'il faisait chez Goldman Sachs.
Mais parlez-nous peut-être aussi de ce que vous faites, parce que vous avez deux médiums très différents avec Xavier Dorizon qui a choisi la bande dessinée, il est au scénario, mais Thomas Allard, dans cette Hollywood du pauvre, comme on dit parfois de la BD, eh bien, peut tout se permettre de représenter les foules qui patientent, qui dorment dans la rue ou qui vont faire le siège du Human Stock Exchange pour être cotés à leur tour. Vous représentez la dématérialisation progressive de l'économie, vous avez fait un parti pris de mise en scène presque épuré, minimaliste, c'est un écho à ce devenir immatériel de l'économie.
La pièce de Massini est très particulière parce qu'en fait elle se présente sous la forme d'un récit. Hein, c'est-à-dire que du coup le propre de Massini, c'est pas pour rien qu'il est italien, c'est de revenir à l'art du conte, on va dire, du conteur. Donc l'acteur est un acteur-conteur qui en fait raconte une histoire. Et Massini fait une chose qui est assez originale, c'est-à-dire que le récit est d'un seul tenant et il ne dit pas au metteur en scène combien il y a d'acteurs pour jouer le texte et il ne dit même pas du tout comment est-ce que le texte est réparti. Donc un des gros travaux, c'est d'abord de construire une distribution et ensuite de se déterminer qui va dire quoi à l'intérieur de ce texte et comment ce texte va se mettre en jeu. Mais en même temps, cette oralité, donc ce récit, ce conte, s'incarne formidablement bien par des acteurs et avec la jubilation d'une histoire qu'on raconte. Et ce que vous appelez la mise en scène épurée, je pense que c'est simplement le fait que la base de la mise en scène, elle est par le fait qu'on a des acteurs-conteurs, un cœur, puisqu'à 6 hommes, ils vont être à la fois les 6 Lehman essentiels,
et Et les femmes qui accompagneront les Lehman Brothers, il n'y a pas une seule femme sur le plateau, elles sont incarnées aussi par des hommes en costume.
Tout à fait.
Mais justement, il y a la dématérialisation d'une certaine manière dans le décor qui est épuré, mais vous avez choisi, donc par rapport à la liberté que vous laisse Stefano Massini aussi, de faire de ces acteurs conteurs des constructeurs du décor. J'ai l'impression qu'ils bâtissent, puisqu'on les voit monter la première porte de la première boutique Lehman Brothers, mais installer aussi les premiers fauteuils du siège à New York. Vous leur avez fait construire finalement leur propre empire et leur propre chute.
Y a une forme très ancestrale du théâtre là-dedans, hein, c'est-à-dire qu'une forme de théâtre de tréteaux, même si on a un décor qui effectivement représente grosso modo le hall de banque qu'on entendait d'ailleurs dans les extraits d'infos au moment de la faillite de la banque, c'est-à-dire que pendant que vous vous installez en tant que spectateur, on voit des hommes qui passent avec leurs cartons comme s'ils étaient licenciés, donc ces images qu'on a vu, les gens qui descendaient la Lehman Brothers avec leur petit paquet, c'est-à-dire leurs cartons avec leurs premières affaires, qui est évidemment ce qui se passe aux États-Unis quand vous êtes licencié. Donc comme là ils ont été tous licenciés en même temps, ça a fait un ballet non-stop, continu, de gens qui partaient avec leurs cartons. Donc c'est ça que vous voyez quand vous arrivez. Donc on part de ce hall de banque qui est dans notre mémoire à tous. Puis effectivement, on va faire une sorte de machine à remonter dans le temps avec le retour dans cette boutique de l'Alabama et puis le fait qu'ensuite on va partir à New York et avancer. Là je pense qu'il y a un procédé narratif qui est lié aussi que l'acteur-conteur construit la manière d'avancer dans l'histoire, tout bêtement.
Xavier Dorizon, il y a des images aussi et pour cause dans votre bande dessinée, la série Human Stock Exchange, qui est donc dessinée par Thomas Allard. Vous êtes au scénario et puis à la couleur, on peut saluer le travail de Christian Lérolle et je vous propose tout de suite de plonger dans ces images avec les oreilles.
CNB Direct Live.
Crise financière toujours. Ce matin, une foule de petits porteurs ruinés a violemment attaqué la bourse de Francfort. Après les affrontements devant Wall Street et le Kabuto Cho, le bilan des émeutes d'actionnaires s'élève à plus de 7000 morts. Les bourses ont immédiatement réagi à ces mouvements de violence et ont toutes dévissé. Toutes les valeurs accusent donc une nouvelle journée de baisse, toutes à l'exception d'une seule, le HSE, le Human Stock Exchange. Rien ne semble pouvoir affecter les Red Eyes, ces yeux rouges, hommes et femmes qui ont accepté de se faire coter en bourse et dont les yeux rougis nous indiquent les longues journées de travail ou le temps passé à scruter leurs cotes. Alors, la cotation humaine, miracle économique ou simple avantage conjoncturel?
CNB Direct Live.
Je vous ai évalué à 1 200 000 euros dollars. Ça fait 12 000 actions à 100 euros dollars que je vais proposer au marché. Si elles sont achetées, vous percevrez votre capital, 1 200 000 euros dollars. Avec votre profil, si je veux vous rendre attractif, je vais devoir promettre une rentabilité de 2% annuelle. Vous devrez 2 000 par mois à vos actionnaires. Après, dès qu'un de vos actionnaires fait une plus-value en vendant une de vos actions, vous touchez votre part.
Ma question va peut-être vous paraître idiote, mais que se passe-t-il si un Red Eyes ne verse plus de dividendes à ses actionnaires ? Ils ne peuvent pas le virer ?
Ça n'arrive jamais. L'intérêt des actionnaires est le même que celui des cotés. Qui irait jouer contre lui-même ?
Tu n'es pas content de tout ça ?
Si, bien sûr.
Tu as tout ce que tu voulais, Félix, non ?
Oui, mais je croyais que ça serait différent.
C'est peut-être le signe que c'est le moment d'arrêter.
Félix, c'est Simon. Il va falloir saisir votre chance. J'ai une opportunité pour faire monter votre cote et vous obtenir une grosse augmentation de capital. Vous pourriez récupérer 1 million d'euros de plus. Félix, ça vous intéresse ?
Je vous écoute.
Vous êtes au cœur de Human Stock Exchange par les facéties de notre réalisateur Thomas Beau, qui incarnait également Félix Fox dans cette mise en onde d'une des planches ou d'un mix de quelques-unes des planches du premier tome de la série pour vous planter le décor. Il y avait également les voix de Xavier Martinet, Romain de Bec-de-Lièvre dans le rôle de Simon Sachs, le patron du HSE, et Hélène Delis, la ravissante Rachel, fâchée par le tour que prennent les choses pour découvrir justement ce qu'il advient, le destin et les péripéties, les aventures de Félix. Et bien, il faut lire les trois tomes, dont le troisième, donc et dernier, vient de paraître chez Dargaud. Vous reconnaissez un peu vos personnages en attendant la série télé, peut-être, HSE, Xavier Dorizon, dans cette mise en onde ?
Alors, la série télé, elle est en train de se préparer, déjà. Ce sont les producteurs de Baron Noir qui s'en occupent.
Ah bah voilà, on peut faire des délices initiés dans Ping-Pong, grâce à vous.
Voilà, et quant à... Oui, je les reconnais, je reconnais bien leur dialogue, évidemment.
Surtout Rachel. Hein.
Ouais, surtout Rachel. Alors voilà, après peut-être que j'aurais dit certaines intonations, je les aurais peut-être pas jouées comme ça. Alors, mais c'est bien eux, oui.
Il y a de la direction d'acteur dans vos propos, mais justement parlons de ce compagnonnage, cette complicité dans le crime avec Thomas Allard, donc qui signe les dessins de HSE. Comment est-ce qu'il a pu influer, voire modifier votre scénario, Xavier Dorizon?
Vous savez, faire une bande dessinée, c'est vraiment un travail de collaboration. C'est, à mon sens, pour qu'elle marche, il faut que le dessinateur et le scénariste avancent main dans la main, collaborent intimement, se connaissent, échangent, discutent. Et là, c'est moi qui ai choisi Thomas, c'est-à-dire que chercher un dessinateur qui soit capable de donner un dessin réaliste, pour qu'on sente la vérité de cette époque, pour qu'on reconnaisse les immeubles décatis quand on est dans les zones pauvres, ou au contraire le côté très lumineux, presque tout blanc et presque divin des zones où sont les personnes riches, les relais. Et je tombe par hasard sur des planches de d'une série précédente de Thomas. Et alors, je le connaissais pas du tout. J'ai tout fait pour trouver ses coordonnées. Je l'ai appelé et je lui ai dit, voilà, j'ai un scénario pour vous. Je serais vraiment très heureux que vous le dessiniez. J'ai eu de la chance, il a apprécié. Et ensuite, on a... Alors là, on parlait de direction d'acteur, mais on a fait ensemble... La répartition des rôles dans une bande dessinée est un petit peu différente de celle qu'il peut y avoir en télé ou au cinéma ou au théâtre. En bande dessinée, le scénariste... et la moitié du metteur en scène. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, une bande dessinée naît au moment où vous faites le storyboard, c'est-à-dire les premiers prédessins, voilà. Et c'est à ce moment-là où il faut ensemble discuter pour que toutes les intentions de l'un et de l'autre puissent s'ajouter. Et on discute, par exemple, de l'expression des personnages, des axes de dessin, non pas de caméra, mais là, de dessin. Et voilà, donc ça, c'est une bande dessinée qui s'est faite dans une collaboration totale entre Thomas et moi.
L'autre collaboration, évidemment, qui résonne, c'est celle entre Stefano Massini et Arnaud Meunier. Vous mettez en scène son texte. Et je disais tout à l'heure, vous aimez beaucoup les textes contemporains, les textes d'aujourd'hui depuis le début. La première fois, c'était un texte de François Bégodeau. Vous êtes aussi donc emparé de Michel Vinavert. Qu'est-ce qu'il y avait dans la langue de Stefano Massini qui vous a pris et que vous a donné envie de vous en emparer?
Il a une capacité à raconter le réel qui est absolument fascinant. C'est-à-dire qu'il transforme le réel en polar. C'est-à-dire qu'on est happé par sa description du monde, comme si on avait un page-turner. Hein. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à lâcher. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai découvert le texte, en fait, les chapitres de la chute, c'est donc 3 épisodes, c'est une saga. On les voit dans une seule soirée. Chaque épisode dure grosso modo 1 heure. Donc finalement, c'est assez proche d'une série télé. Et quand j'ai découvert la pièce, il n'existait que le premier épisode. J'ai rencontré Stefano Massini, il fait à peu près la même chose que vous, et du coup, je l'ai convaincu d'écrire la suite qu'il avait déjà dans sa tête et sur le papier. Il avait la trame, on va dire, mais il l'avait pas écrite. Et c'est vrai que Stefano a un art du détail et du rythme. Hein. C'est quelqu'un qui écrit ses pièces en faisant du vélo. Donc, effectivement, on sent que ça pédale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas dans la semoule, mais ça pédale, ça avance. Voilà. C'est-à-dire que du coup, il y a un rythme inhérent au texte qui est fascinant pour les acteurs. C'est-à-dire que c'est comme une course de relais. Il y a un bâton témoin qui se passe les uns les autres et jamais le bâton ne doit tomber. On sent bien que tout de suite, si jamais il y en a un qui prenait une espèce de temps qui serait incongru, l'histoire s'arrêterait. Et cette frénésie avec laquelle, du coup, on nous raconte 200 ans d'histoire, elle met le spectateur, je pense, dans une fascination aussi par rapport à une success story. Et cette success story, elle nous trouble parce qu'effectivement, on les aime, quoi. C'est-à-dire que du coup, on les aime, ces 3 frères émigrés juifs qui arrivent et qui partent de rien et qui finissent par devenir banquiers, construire quelque chose, etc. Et du coup, cette empathie que nous avons pour ces fondateurs, elle nous trouble et elle nous amène à nous interroger sur aussi cette fascination que nous avons tous pour le succès. Et aussi cette fascination qu'on a sur le fait que... c'est pour ça que les théoriciens de la décroissance, par exemple, ils ont tellement de mal à prendre sur le grand public. C'est parce que, fondamentalement, c'est pas la nature humaine. La nature humaine, c'est quand même de continuer à aller de l'avant, de continuer à développer. Et quand bien même on nous dit qu'on est en train d'atteindre une limite, et quand bien même on nous dit qu'on met notre planète en danger, on ne veut pas le croire, on continue à avancer. Et ça, c'est l'histoire des Lehman Brothers. C'est-à-dire, quand bien même tout commence à clignoter de partout, quand bien même le petit-fils qui vient de faire Yale annonce que, y compris dans son université, on lui annonce que ce système risque de s'effondrer, on continue à le faire jusqu'à ce que ça s'écroule.
On l'entendra tout à l'heure d'ailleurs.
Xavier Dorizon, on l'entend, les mots sont les outils, sinon les armes, non seulement du dramaturge Stefano Massini, mais aussi les vôtres en qualité de scénariste. Ce sont aussi les outils et peut-être les armes des financiers. On imagine qu'ils travaillent qu'avec des chiffres, mais grâce à Stefano Massini, on comprend que la finance est d'abord affaire de mots. Les mots sont partout, à New York, écrit-il notamment, et les mots sont partout au cœur du récit de HSE, votre série donc d'anticipation en bande dessinée sur cette financiarisation de l'être humain lui-même. Xavier Dorizon, est-ce que vous pouvez nous parler de la langue, de l'évaluation qui est bien là dès aujourd'hui et qui n'est pas pour demain, qui fait penser à la LTI, la langue du Troisième Reich qu'avait analysé en son temps Victor Klemperer et qui vous sert à faire avancer le récit? Il y a des mots comme ça, on parlait des red eyes, mais il y a des mots clés pour vous?
Mais justement, moi ce qui me frappe, c'est par rapport aux mots, c'est l'utilisation de termes financiers autour des êtres humains au quotidien. Une marque que je ne citerai pas dit « parce que je le vaux bien ». Et si vous regardez dans le métro les publicités que vous allez voir de partout, de plus en plus, vous êtes assimilé à une valeur.
Et faut gérer une situation.
Gérer une situation, gérer quelqu'un. Et de plus en plus, et c'est ce que je trouve, mais on est nombreux comme ça à trouver inquiétant, c'est que de plus en plus, nous sommes évalués en termes de performance. Et donc, l'économie voudrait nous transformer véritablement en matière. Et je crois qu'en fait, c'est pas tant. Vous parliez tout à l'heure de dire que les gens voulaient du progrès, même dans les. Je pense qu'en fait, c'est là peut-être là chez ce un message différent de votre histoire.
Le développement, ouais.
C'est que je pense qu'on fait croire aux gens qui veulent du progrès au sens plus, alors qu'en réalité, et c'est un peu l'histoire de mon personnage, tout ce qu'il veut, et je crois que c'est ce qu'on veut tous, c'est qu'on veut être aimé au sein d'un groupe. La question, c'est comment. 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui aime les artistes qu'elle invite et qui peut-être, elle aussi, au fond, veut être aimée.
Alors, comment transforme-t-on son passé et son amour dans les bulles d'une bande dessinée? Pourquoi la dynastie des Lehman Brothers a tout d'un bon Shakespeare? Réponse avec nos invités Xavier Dorizon et Arnaud Meunier.
Et puis du business de la cotation boursière, il y en a encore tout de suite dans le journal de la culture de Zoé Sfez. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde. Mon journal du soir pourrait s'appeler « Être aimé au sein d'un groupe », justement, c'est tout l'enjeu.
Et pas n'importe quel groupe, il s'agit du groupe français et international, non, transnational, Canal+, Zoé, qui est au cœur donc de votre dossier ce soir. Le destin de la chaîne cryptée, mais aussi celui de Studio Canal, la branche cinéma du groupe, et puis la chaîne d'info iTélé semble incertain depuis la reprise en main du groupe par l'homme d'affaires Vincent Bolloré. Après avoir renvoyé la plupart des chefs du groupe, celui-ci annonce fin avril qu'il n'exclut pas de fermer tout simplement cette chaîne qui perd selon lui trop d'argent. Et ce week-end, il a fini par s'exprimer dans les médias pour éclaircir sa stratégie, sa satrapie.
Sa stratégie, effectivement. Il était temps, car si Vincent Bolloré a multiplié les actions choc, il ne parlait toujours pas dans les médias. Alors je rappelle qu'effectivement, il a fait tomber la plupart des têtes quand il est arrivé au pouvoir, on peut le dire, quand il a décidé de prendre en main cette chaîne. Il a effectivement passé les guignols, l'émission phare en crypté. Il a limogé la société de production qui produisait notamment Le Grand Journal. Et les audiences ne cessaient depuis ce moment-là de s'effondrer. Dernière nouvelle en date, le départ la semaine dernière de Yann Barthès, animateur du Petit Journal, qui quitte la chaîne cryptée pour TF1. Alors, quelle est la stratégie de Vincent Bolloré pour son groupe? Il n'avait jusque-là jamais daigné répondre aux questions des journalistes et il s'est exprimé pourtant la semaine dernière dans deux journaux économiques, Challenge tout d'abord et Les Échos ce matin. Il confirme d'abord une première information qui va dans le sens de ce qu'avait déjà cru comprendre Julien Belvert. C'est le rédacteur en chef du site Pure Média. Il est l'un des seuls journalistes qui jusque-là réussissait à avoir des informations sur ce qui se passait dans la chaîne.
C'est très compliqué de travailler sur le dossier Canal+, puisque personne ne parle ni à Canal ni à Vivendi, qui est la maison mère de Canal+. Jusqu'à présent, Vincent Bolloré ne parlait pas aux journalistes. Visiblement, ça a changé cette semaine, où il a un petit peu éclairci sa stratégie, même si tout le monde a du mal à comprendre exactement ce qu'il va faire à partir du mois de septembre. Il a affirmé ce qu'on entendait depuis quelques semaines, c'est-à-dire une réduction des plages en clair. Il a l'air de dire que le clair est responsable de tous les maux de Canal+, mais il faut quand même savoir que les tranches en clair n'ont jamais vraiment fait de mal à Canal+, parce que quand les émissions marchent, on sait qu'elles génèrent un important chiffre d'affaires publicitaire qui couvre généralement leurs coûts. Les précédentes années ont montré que des tranches en clair puissante permettait justement de recruter des abonnés, permettait de mettre en avant un programme payant. Mais Vincent Bolloré pense que Leclerc ne permet pas de recruter des abonnés. Il dit même que Leclerc cause la perte de certains abonnés. Donc ça, c'est assez étonnant. On ne l'avait jamais entendu jusqu'à présent.
Et cette disparition du Leclerc, Zoé, semble certes étonnante, mais elle ferait partie pour Vincent Bolloré d'une stratégie plus large.
Oui, c'est en ce sens qu'il a expliqué donc au rédacteur en chef des Échos, David Barou, avec qui il a déjeuné, pour ce journaliste spécialisé dans l'entreprise. La stratégie de Vincent Bolloré est assez claire et relativement cohérente avec les enjeux de l'époque.
On avait prévu de se voir, voilà, c'est un homme discret, pour l'instant on lui prêtait beaucoup d'attention, beaucoup de gens disent il pense que, mais il l'avait jamais dit directement lui-même. Son premier message, c'est de dire, pour que Canal soit sauvé, il faut que Canal se renforce dans le sport. Il reconnaît que depuis quelques années, Canal a été très concurrencé par la montée en puissance de Bein, donc il insiste sur le fait que si l'autorité de la concurrence l'autorise à monter un partenariat avec Bein, bah, il va retrouver une position de force dans le sport, et le sport, c'est le premier motif d'abonnement pour les abonnés à la télé payante à peu près partout dans le monde, quoi. Donc il a besoin de se renforcer dans le sport, c'est ça. Il pense qu'il pourra mettre en place derrière une autre politique marketing. Canal, sans doute, segmente un peu plus ses offres. Historiquement, Canal, c'était un prix qui est toujours le même, autour de 40 €. On a une palette de services, de prix, qui est finalement assez limitée. Si vous comparez dans la téléphonie mobile, vous avez plein de tarifs, plein d'options, ce qui permet de faire rentrer des gens à des prix pas très élevés, de les faire monter progressivement en leur vendant des options, ou éventuellement des gens qui dépensent beaucoup et qui veulent s'en aller, bah, de les retenir en leur proposant des offres un petit peu moins chères.
Et l'un des domaines de la stratégie où Vincent Bolloré est le plus mal perçu, peut-être, c'est celui du cinéma, Zoé.
Et oui, vous le savez, Canal+, c'est le premier producteur de films en France, voire parfois en Europe. La perspective de la fermeture de la chaîne effraie terriblement le secteur, d'autant plus que dans
Xavier Dorizon a un projet dans les cartons. Hein.
Alors, le premier geste de Vincent Bolloré, ça a été de licencier la chef de Studio Canal. Il a aussi drastiquement réduit les dépenses allouées au Festival de Cannes, prenant effectivement le fait qu'il fallait faire des économies. Il a tout simplement d'ailleurs annulé sa visite au Festival. Alors j'ai interrogé sur la perspective de cinéma, donc du futur cinématographique de Canal+, René Bonnel, qui est tout simplement le fondateur de la chaîne et de Studio Canal, qui a mis en place toute la branche cinéma. Pour lui, fractionner l'offre de Canal pour avoir plus d'abonnés sur des offres plus spécifiques, c'est effectivement la solution, mais là encore, Vincent Bolloré n'est pas tout à fait clair.
Il faut changer de modèle, parce que Canal+, son grand problème, c'est qu'il s'est toujours pensé comme un monopole, et que maintenant, sa place est totalement remise en cause par le développement de la diffusion numérique. Que ses concurrents se multiplient, Numéricable, Netflix, etc., etc. Donc, il faut qu'il revoie complètement son modèle, qui doit être très concurrentiel et très adaptatif à ce que demandent notamment les jeunes. Les jeunes sont très mobiles, passent d'une offre à 10 €, d'une offre à 15 €, cherchent le coût le plus bas pour le maximum de contenu. Et que la seule, à mon avis, erreur commet Vincent Bolloré, c'est autre qui dit pas clairement ce qu'il veut faire en ce qui concerne son offre, c'est qu'il va pas assez vite en ce qui concerne la formulation d'une offre commerciale. Parce que pendant ce temps, le marché se développe, il perd des abonnés et que les gens du cinéma sont inquiets, à juste titre, puisque Canal+ représente 25 à 30% des investissements cinéma.
Dernier point, cette fois-ci rassurant, Vincent Bolloré a assuré qu'ITélé, la chaîne d'info du groupe, n'était pas à vendre. La société journaliste de ITélé, justement, était extrêmement inquiète. Elle avait multiplié les interviews alarmantes par la voix de l'éditorialiste Olivier Ravanello, qui est donc le président de cette société des journalistes. Elle a salué cet après-midi cette décision dans un communiqué dont j'ai eu la primeur. Communiqué très conciliant, qui s'est félicité en tout cas de cette annonce de Vincent Bolloré, mais qui se termine tout de même par cette phrase, je cite, « Concernant la disparition des rendez-vous en clair, la SDJ rappelle que depuis des années, Canal+, s'était singularisé en important au débat public des rendez-vous d'information, de débat, de reportage, où l'indépendance était une marque de fabrique. Sans s'immiscer dans des considérations économiques ou stratégiques, chacun ne pourra que regretter la disparition de programmes forts qui avaient souvent fini par faire école. »
Merci Zoé, on passe au bref avec une disparition d'un second rôle de premier plan.
François Demès, 91 ans, spécialiste des seconds rôles au cinéma mais surtout à la télévision. Il était apparu notamment dans La peau du commissaire Fèvre, dans les premières saisons de la célèbre série Les Brigades du Tigre. Il a aussi multiplié les apparitions dans les années 80 et surtout au cinéma. Il avait travaillé autant pour Louise Buñuel que Jacques Rivette, Henri Verneuil ou encore Claude Chabrol.
et la romancière et nouvelliste sud-coréenne Han Kang a remporté le 16 mai à Londres le Man Booker Prize International.
Pour son roman The Vegetarian, qui relate le désir d'une femme végétarienne de devenir une plante pour sauver le côté obscur de l'être humain. Ce triptyque a été traduit en français aux éditions du Serpent à Plumes. Je rappelle que le Man Booker Prize, qui récompense un ouvrage international traduit en anglais, est un des prix littéraires les plus prestigieux du monde et à partir de cette année, il sera annuel et plus bisannuel comme avant.
C'est un feuilleton également dans le monde de la culture et maintenant le monde politique, le concert de Black M, suite.
Oui, vous en avez parlé, sous la pression de l'extrême droite, le maire de Verdun, Samuel Hazard, avait annulé le concert du chanteur-rappeur Black M, annoncé sa l'annulation donc saluée comme une victoire par l'extrême droite. Et ce matin sur Europe 1, François Hollande s'est dit prêt à donner au maire les moyens sécuritaires pour que le concert ait lieu. Et ce soir, c'est Manuel Valls, Premier ministre, qui est monté au créneau. Il accuse Hervé Mariton de créer de la tension dans le pays par la violence des mots, puisque le député LR avait accusé, plutôt, dans le week-end, la ministre de la Culture de soutenir tout simplement la tenue de ce concert.
Merci Zoé, on a envie de réagir avec nos invités d'une part à votre dossier du jour sur Bolloré et Canal+. Vincent Bolloré, c'est une obsession sur le site Les Jours qui est mené par des anciens de Libération qui travaillent finalement ces affaires entre Canal+ et Vincent Bolloré à la manière d'un feuilleton. Est-ce que pour vous, Arnaud Meunier qui mettait en scène les chapitres de la chute de Lehman Brothers, il y a aussi des ingrédients comme ça d'un bon feuilleton théâtral?
Non, mais il y a tout ce qu'il faut, je convainc Stéphano de s'intéresser à ça, parce qu'on a à la fois un vieux modèle économique qui arrive au bout d'un cycle, et donc une nouvelle génération qui doit s'interroger sur le fait qu'effectivement l'offre numérique change tout, et que c'est intéressant le fait que Bonnel dise que ce Canal+ s'est vécu comme étant un monopole ad vitam aeternam, et que maintenant ils sont remis en cause par la remise en cause du modèle économique, et puis l'arrivée du grand méchant loup qu'on ne voit jamais, et qui petit à petit commence à éliminer les dix petits nègres. On est entre Agatha Christie et Walt Disney, donc c'est formidable.
Xavier Dorizon, un mot peut-être sur la disparition de François de Maistre, puisque vous avez été le scénariste de l'adaptation cinématographique des Brigades du Tigre, et lui, il jouait donc ce commissaire Fèvre dans la fameuse série télé.
Oui, et rôle qui a été repris à l'époque par Gérard Jugnot. Oui, en fait, c'est amusant que le même jour, on parle de disparition de Canal+, et la disparition de cet acteur qui était François de Maistre.
La disparition du cinéma à Canal+, en partie.
Oui, en partie. Mais parce qu'en fait, on parle d'une époque où, on parle des Brigades du Tigre et de la série télé, où l'audiovisuel français donnait encore une grande place à ce qu'on appelle le cinéma de genre, hors comédie. Là, il y a toujours beaucoup de comédies produites en France, il y a encore beaucoup de cinéma dit social produit aussi en France, mais et vous l'aurez sans doute noté, depuis pas mal d'années, vous ne voyez plus d'aventures historiques, vous voyez quasiment plus, il y a quelques exceptions, mais quasiment plus de polars. Et d'une façon générale, vous ne voyez plus de films autour de ce qu'on appelle la mythologie française, nos histoires, les Américains ont le western, nous on a les films en tricorne, le cap et d'épée, etc. C'est fini. Et Canal+ a d'ailleurs été le dernier à donner des films. J'ai la conviction, mais parce que je suis scénariste, qu'il y a un énorme potentiel cinématographique autour de ce cinéma de genre fait par des équipes de talent qu'il y a en France. Et donc, il y a un énorme spectre du cinéma français où il n'y a personne. Et moi, je dirais plutôt que de fermer Canal et son cinéma, mais au contraire, ouvrez, créez et avancez dans ces secteurs-là.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Nous allons revenir à la réalité, quoique théâtralisée et fictionnalisée aussi un petit peu, les chapitres de la chute Lehman Brothers, mis en scène par Arnaud Meunier, un extrait.
J'ai 1000 dollars dans mon vieux portefeuille. Je voudrais qu'ils deviennent 2000. Dans quoi puis-je investir?
Dans rien. Absolument rien, monsieur Paprinski. À Yale, on nous enseigne que la bourse donne parfois d'étranges mirages. Gardez vos 1000 dollars dans un endroit sûr.
Mon fils a très certainement eu un moment d'égarement, très cher monsieur Paprinski. Il existe des centaines d'actions qui doubleront leurs bénéfices en quelques années.
L'Allemagne devrait tout arrêter. Arrêter, tout simplement. Arrêter avec les titres en cascade. Parce que n'importe qui peut être coté en bourse. Nous sommes comme une automobile qui n'a pas de frein. Et vous le savez. Mais tout en le sachant, monsieur mon père, Vous poussez son moteur pour qu'elle monte plus haut, toujours plus haut, tout en haut de la montagne. Seulement parce que son moteur est puissant, seulement parce que son moteur est un bolide et qu'il résiste. Et comment ? Il résiste très bien à l'effort. Je vous le demande, une fois arrivé là-haut, comment ferez-vous pour redescendre sans frein ?
Nous sommes à la veille du krach de 1929. C'est une discussion entre Philippe Lehmann, père, et Henri Lehmann.
Robert.
Bobby, qui a fait Yale et qui donc explique à son père que cette spéculation économique, que cet emballement, que cette création de ce qu'on n'appelle pas encore des bulles et qui va s'avérer être des bulles après le krach boursier, ben voilà, c'est un dépassement économique illimité qu'il faut à un moment cesser. On est dans une séquence entre le père et le fils et on se retrouve régulièrement dans cette dynastie Lehman Brothers, dans les chapitres de la chute Lehman Brothers écrits par Stefano Massini, en fait avec une dynastie shakespearienne de rapports entre les pères, les fils, de rapports de pouvoir avec aussi les rôles secondaires, parfois joués par les épouses, c'est rythmé par les guerres, c'est rythmé par les morts, c'est aussi rythmé par les cérémonies religieuses, hein. On sent qu'on respecte de moins en moins le deuil et de moins en moins le kaddish. Comment est-ce que pour vous, il y avait aussi dans l'écriture de Stefano Massini quelque chose d'un bon Shakespeare, et on ne le dit pas par hasard, parce qu'il en est l'un des traducteurs, justement, Stefano Massini de Shakespeare.
Mais en fait, quand Stefano m'a donné la pièce, elle s'appelait Chapitre de la chute, c'est tout. Et ensuite, quand Stefano a écrit les trois pièces, il l'a appelé Lehman Trilogy. Donc, il lui a donné un titre anglais. Donc, on a eu une discussion sur le titre, parce que je lui ai dit, écoute, sincèrement, au théâtre, Lehman Trilogy, d'abord, les titres anglais au théâtre français, c'est pas toujours terrible. Et puis, sincèrement, les gens sauront pas ce que c'est que Lehman. C'est-à-dire, si tu dis pas Lehman Brothers, déjà que la banque américaine était parfaitement inconnue du français moyen avant qu'elle fasse faillite. Hein, c'est pas la Société Générale, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est personne connaissait la Lehman Brothers avant qu'elle fasse faillite. À part ceux qui avaient des investissements d'affaires, mais le français moyen ne savait pas ce que c'était que cette banque. Donc, et c'est moi qui lui ai proposé effectivement ce sous-titre sur la saga. Parce que je trouvais que c'était, ce qui était fort dans le projet, c'était justement ce côté saga, le côté presque de Dallas ou Dynasty, si vous voulez.
Il y a effectivement, les
atrides, on y pense, on y pense constamment. Et effectivement, c'est toujours le fils qui va remettre en cause le vieil ordre du père. Bon, ça, effectivement, c'est un procédé théâtral très classique. Le fils voit les choses différemment. Le fils, effectivement, Philippe Lehmann, quand il parle à son père Emmanuel, qui lui continue à vouloir investir dans le charbon et dans le coton, etc., dans le café.
Le bras qui avait monté la boutique, voilà, à la Babama.
Il lui dit, mais ça sert à rien d'investir là-dedans, parce que ce qui va nous rapporter de l'argent, c'est le chemin de fer, parce qu'on est à la fin du 19e siècle, il y a la conquête de l'or, et qu'en plus, ils ont cette idée très forte d'investir dans le chemin de fer qui va de l'est vers l'ouest, et non pas du nord vers le sud, parce qu'ils pressentent déjà qu'après la guerre de sécession, ça sera inutile.
Xavier Dorizon, dans la série en bande dessinée dont vous signez le scénario, donc HSE, Human Stock Exchange, on n'investit pas dans le chemin de fer, mais dans l'être humain, tout simplement. Après avoir investi dans la star, on investit dans le citoyen moyen. À l'instant, Mathilde parlait de Shakespeare. Il est évident qu'il y a du Shakespeare partout, mais dans cette série, Human Stock Exchange, en plus, il y a de vous, je le disais tout à l'heure au début de cette émission, vous avez travaillé chez Nestlé, vous avez travaillé pour la banque Barclays après avoir étudié sérieusement dans une école de commerce. Vous disiez tout à l'heure que votre personnage, Félix Fox, est capable de vendre de la glace aux Esquimaux. Quels épisodes, propres à votre expérience dans l'entreprise, se rejaillissent dans cette histoire? Vous avez vendu des voitures, vous aussi?
Oui, enfin, indirectement, la filiale de Barclays dans laquelle j'étais finançait les parcs automobiles des entreprises. Ce qui, d'ailleurs, fait que on emploie, vous savez, je trouve un peu à tort le parce qu'il recouvre plein de sens, le mot finance. La finance, c'est soit effectivement aider des entreprises à acheter, et dans ce cas-là, vous êtes dans de la finance dite d'entreprise, soit vous êtes dans de la finance de marché, et là, on retrouve le sujet Lehman Brothers, et ces deux finances-là n'ont en réalité que très peu de rapport. Mais moi, j'ai plus essayé de retrouver dans cette histoire, effectivement, une trame humaine, comme d'ailleurs dans la pièce, c'est ça qu'on cherche.
Vous étiez un tigre qui criait Torah, 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 comme...
Non,
Félix
j'ai jamais
Fox,
crié Torah, Torah, j'étais dans une activité à la fois financière et commerciale, ça me plaisait beaucoup, mais je me retrouve dans, évidemment, dans ce personnage de Félix Fox, et pour en avoir parlé autour de moi, je pense que, en fait, j'ai essayé de faire un personnage assez emblématique de l'occidental européen, en tout cas celui que je connais à peu près de notre époque, à savoir quelqu'un qui est un drogué. Un drogué à la consommation. C'est-à-dire que, vous savez, le principe d'une drogue, c'est simple. Vous prenez une dose, vous avez du plaisir, et puis ce plaisir se dissipe très vite, et ensuite vous êtes en dépendance. La consommation, c'est pareil.
Arnaud Meunier?
Ce que je trouve fascinant dans la bande dessinée, c'est que elle paraît déjà très plausible. C'est-à-dire que c'est ça qui est formidable dans cette anticipation, c'est que proposer aux gens déjà de commencer à investir sur les gens et sur les stars, etc. On n'est pas loin de ça. Donc ça que je...
Et vous savez qu'il y a le premier sportif coté en bourse, ça existe. Hein, c'est arrivé en 2013.
Oui, il s'appelle Vernon Davis. C'est un footballeur américain. Vous pouvez acheter ses actions si ça vous fait plaisir.
Et effectivement, le point commun des deux projets, c'est comment est-ce que c'est par l'être humain. Parce que souvent, moi, quand j'ai commencé à vouloir produire le projet, il n'y a pas beaucoup de théâtre qui ont cru au départ, parce que faire un spectacle, donc en tout on fait 3h30 entre actes compris, mais sur faire un spectacle de théâtre sur de la finance, il y avait quand même pas grand monde pour y croire, et beaucoup de gens qui me disaient mais moi je comprends rien d'économique, je suis une bille, jamais je vais pouvoir. Et ce qui est très étonnant avec ce qui nous arrive, parce que donc c'est la reprise d'un spectacle qu'on a créé il y a 2 saisons, enfin ça a été un succès très fort au théâtre du Rond-Point dans la petite salle, et finalement maintenant on est dans la grande, c'est parce qu'en fait c'est un spectacle ultra populaire, parce que tout le monde s'y reconnaît, parce que c'est avant toute chose l'histoire d'une famille, donc c'est extrêmement humain, et en fait on comprend l'économique par l'être humain, et dans le projet de bande dessinée de mon camarade j'entends ça, c'est ça qui est assez passionnant, c'est comment est-ce que de ce qui est très virtuel et toujours très lointain, finalement se concrétise quand il passe à travers le prisme d'une famille ou d'un individu.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Si c'est pas Shakespearean, ça quand même. Notre disque du jour, Zoé, est-il coté en bourse ?
Ah, c'est, en tout cas, lui aussi, il raconte une certaine idée de l'humain, de l'Amérique, d'un être humain, puisque c'est le nouvel album d'un lonely cowboy de la musique américaine, Father John Misty, qui a failli être pasteur et qui est devenu batteur à 17 ans quand il a découvert Bob Dylan. Il a ensuite intégré le assez kitsch Fleet Foxes, et là, il revient à ses premières amours avec cet album, ce nouvel album qui s'appelle I Love You Honey Bear, une espèce de folk assez sûre, mais très luxuriante, qui, dans les textes, parle de l'amour, de l'hypocrisie, de la religion, bref, de l'Amérique. I Love You Honey Bear, c'est donc le nouvel album de Father John Misty. Il est en concert.
Je t'aime, mon gros nounours.
À l'Alhambra. Donc il sera en concert à l'Alhambra, sachez-le, le 23 mai à 19h30. Et on le retrouve évidemment chez notre partenaire, le Figaroscope. Tu es donc à côté de demain.
Moi aussi, je t'aime.
Ping-pong.
C'est déjà fini.
Merci beaucoup à tous deux. Pendant que Zoé Suez est très émotionnée dans notre studio, merci pour vos lumières sur les ténèbres que nous réserve la finance mondialisée quand elle se déchaîne. HSE Human Stock Exchange, donc cette série en bande dessinée dont vous signez le scénario et dont le troisième et dernier tome vient de paraître chez Dargaud. Thomas Allard est au dessin. C'était de votre faute, Xavier d'Horizon, votre très grande faute. Quant à vous, la vôtre, Arnaud Meunier, eh bien on peut l'apprécier sur la scène du Théâtre du Rond-Point jusqu'au 29 mai. C'est votre mise en scène de des chapitres de la chute, saga des Lehman Brothers, sur un texte de Stefano Massini.
Le ping-pong est une valeur radiophonique qui s'achète en équipe. Et quelle équipe ? À la rédaction, Aïssatou Ndoye, Hélène Dely et Mathilde Cadreau. À la réalisation, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Myriam Guillot et Jacques Hubert.
Cette partie de ping-pong peut se retrouver, se consommer pendant l'éternité et un jour sur franceculture.fr. Mais qu'en sera-t-il demain de notre programme, Mathilde ?
Demain, nous reparlerons du Festival de Cannes avec Goldshift et Farani qui est à l'affiche du Patterson de Jim Jarmusch et Justine Trier qui a ouvert la scène de la critique. Avec le film emblématique avec Victoria. Virginie Efira, Victoria. On en reparlera avec elle. Et n'oubliez pas aussi que Goldshift et Farani est en Anna Karenine pour la première fois au théâtre.